Radio Stardust.
Morning edition from NPR News.
Que se reproduce en esto en la radio.
France Inter. Le 18-20.
Mon mari était membre de Daesh, donc après la guerre, je ne pouvais plus rester dans mon village. J'ai été placée dans ce camp par les services de sécurité. Nous souffrons beaucoup de cette situation.
Et ouais, en Irak aussi, on ne sait pas comment gérer les familles de djihadistes. C'est ce que nous verrons dans l'escale reportage ce soir. Des familles irakiennes en Irak, des femmes, des sœurs, des mères de djihadistes. Et ça ne va pas tout seul. Sous les radars et Amélie Perrier, vous l'avez entendu, en Indonésie, au Népal et en Thaïlande. 18h50, Le Monde selon Trump, saison 3, avec notamment un Robert De Niro qui fait une entrée très remarquée dans l'émission satirique Saturday Night Live. Et puis 18h55, Le Monde à l'envers de Jean-Marc Four. Et ce comédien troublion en passe d'être élu après le premier tour des présidentielles en Ukraine, mais il n'est pas le seul comique justement à griller la priorité aux politiques. En attendant, c'est en Argentine que je vous emmène. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Fès. Un jour dans le monde.
Fernando Solana s'est connu pour être un infatigable défenseur de son pays, l'Argentine, pourfendeur d'un modèle économique trop libéral qui enferme le peuple. Il l'a prouvé dans sa carrière politique. Il est d'ailleurs toujours sénateur, mais aussi dans sa carrière de cinéaste, documentariste et multiprimé. Bonsoir Fernando Solana.
Bonsoir Fabien, merci.
Le grain de livret sort la semaine prochaine. C'est le dernier d'une série de 10 documentaires que vous faites sur votre pays. Vous y énoncez des choses qui nous parlent à nous aussi en France et partout dans le monde d'ailleurs, puisque vous parlez d'agriculture intensive et d'usage surtout intensif de pesticides. On va y venir un peu plus dans le détail. D'ailleurs, le titre en espagnol, c'est « Voyage dans les pays fumigés ». Au fond, c'est presque mieux, d'ailleurs plus direct, parce que la première chose qui frappe en regardant votre film, c'est l'usage incroyablement intensif des pesticides sur des zones qui sont immenses. Ça se passe par avion, ça veut dire que ça se passe sans aucun cas de la population autour.
Si, en effet, le problème... L'histoire commence en que la semoule de soja, transgénique, c'est une belle affaire. Pourquoi? Parce que c'est très résistant à la sécheresse, au chaleur et le froid. Alors pour les producteurs, ça réduit beaucoup le risque climatique en rapport à la... Pero, à partir de ça, des forêts originaux du pays.
Forêts primaires ont été détruites.
Ouais. Détruites parce que c'est dans la région tropicale, beaucoup de chaleur. Alors, la destruction de la forêt s'est produite par déforestation, pour l'exploitation de la soja transgénique et aujourd'hui du maïs transgénique.
Alors, c'est ce que vous racontez effectivement dans votre film. Vous dites qu'au fond, toutes les graines ont un brevet chez vous. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien de réellement naturel. Tout est transgénique. Vous parlez du soja, par exemple. On a trouvé une petite gène dans une autre plante qui est très résistante, qu'on a implantée dans le soja, si bien que désormais, il n'y a plus que du soja transgénique. Pareil pour le reste. Est-ce que ça veut dire que tout a été transformé, tout a été touché? Il n'y a plus rien, il n'y a plus un légume, un fruit au fond qui soit totalement naturel, ou quasiment?
Quasiment, parce que non. On peut le trouver parce que... De l'autre côté, s'est développée une alternative d'éco-agriculture.
Et c'est ce que vous montrez aussi.
Et l'Argentine, comme dans tous les pays importants du monde, s'est développée l'éco-agriculture. Pero aujourd'hui, s'est fait ce modèle, c'est un modèle très pervers, parce que produire de la nourriture avec des poissons, plaguicides, fungicides, c'est aberrant comme idée.
Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que ce que vous dites, c'est que tout ce qui n'est pas transgénique est réactionnaire. Ça veut dire qu'à un moment, on a fait croire à l'Argentine qu'il ne pouvait pas y avoir d'autre solution.
La modernité, c'est le train. Non, c'est une énorme désinformation. Et on a imposé l'idée que si vous n'étiez pas en le changement vers le modèle transgénique, vous êtes conservateur, réactionnaire, ce n'est pas la modernité. La vérité est que le transgénique permet de produire en quantité.
Ah ben, 20 millions d'hectares, le soja, ce qui est énorme.
On remplace la qualité pour la quantité, mais à cause de la destruction de la terre, du sol, de la nature, et l'expulsion del travailleur rural. C'est fait en agriculture, en escale, en échelle, sans agriculteurs.
Vous décrivez ça très bien, vous montrez des villages qui sont désormais vides, des écoles qui sont désormais vides, des gens qui sont désormais installés à la ville parce que de toute façon il n'y a pas d'autre issue et que leurs enfants désormais ne retourneront pas en arrière. Je parlais de l'épandage des pesticides tout à l'heure. Je voudrais qu'on écoute un extrait, ça se passe tout près d'une école. On va écouter ça dans une seconde et tout de suite, et on se reparle juste après.
Bueno, ese día vinieron desde aquel lado, la avioneta pasó por arriba de la
escuela. Ce jour-là, venant de par là, l'avion a survolé l'école. Il fumigeait le champ d'en face. Il a tourné et a survolé la cour juste au-dessus de l'école. Ils ont lâché le poison sur l'école, puis ils ont fait demi-tour. Les enfants étaient dans la cour, ils ont donc tout reçu.
Alors, ça veut dire par avion, épandage de pesticides, du glyphosate, mais pas seulement, tout le temps, y compris là, à proximité des écoles. Au fond, c'est ce que je disais tout à l'heure, est-ce qu'à un moment, la population locale a un sens pour ces grandes exploitations agricoles, ou on s'en fiche complètement?
Il y a un mélange, d'abord désinformation. Désinformation parce qu'il existe une campagne très très grande, la publicité qui paye les grandes compagnies agricoles ou les grandes compagnies qui produisent le pesticide. Et alors, cette désinformation arrivait aux médias. Les médias sont bien contaminés pour ces campagnes. Alors, relativisent tout. La même façon qu'a passé en autre époque, quand se disait que les cigarettes, les tabacs, ils étaient c'est la cause dangereux. Fondamentale du cancer des poumons. Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. On passait 50 ans pour la reconnaissance qui était comme ça. La vérité que si vous êtes à la campagne, les contrôles publics n'existent pas. Ils n'existent pas. Et en plus, il y a une rede de complicité. Parce que tout le monde, d'une façon ou de l'autre, la campagne travaille en le rural. Et le rural, c'est ce modèle. Alors, la personne qui va dénoncer, comme c'est directrice d'une école, qui dénonce une fumigation, devient l'ennemi public numéro un. Parce que vous voulez que tout nous. Pardon.
Nos emplois. Et ce que nous faisons ici. Il y en a d'autres qui se battent quand même, et vous en montrez évidemment beaucoup dans ce film. Il y a notamment cette nonne dans un village, vous allez nous dire exactement où on est tout à l'heure, où un enfant est mort, supposément et sûrement, à cause des épandages et des pesticides. Et voici ce qu'elle dit.
Desde el año 2011, estamos esperando que sea el juicio.
Depuis 2011, on attend un procès public pour la mort de Nicolas Arévalo. Malheureusement, Nicolas est mort et bien d'autres aussi. Tout le monde sait, mais personne ne parle, parce qu'il y a des intérêts puissants. Ils ont peur, imaginez.
Elle s'appelle Marta Pelloni, Fernando Solanas, elle est défenseur historique des victimes, et notamment là, après la mort d'un petit garçon. Et en même temps, ce qu'on sent tout au long de votre film, avec elle comme avec d'autres, c'est une totale impuissance, en fait, face aux géants qui sont derrière. On a l'impression de petits groupes.
Une énorme impuissance. Le problème, c'est que ces systèmes qui nourrissent... Non, parce qu'il y a un impôt pour l'exportation de tous ces céréales. Et c'est très important pour le trésor national. Et alors, il y a une rede de complicité où tout le monde le sait, il s'est fait. Mais bon, le laisse faire du président de la République jusqu'au dernier fonctionnaire, au fiscal, au juge, au député. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait et le modèle continue. Le modèle continue parce que c'est toute l'économie de la campagne argentine fonctionne ça. Sortir de ce modèle va porter quelques années, parce que les gens qui ont quitté la campagne ont tombé sous des villes, ils n'ont pas de travail, ils sont des chômeurs. Retourner, ils ne peuvent pas parce que la maison il était pratiquement détruite, la forêt il était coupée. C'est tout un problème social et économique très, très fort.
Fernando Solanas, vous êtes encore sénateur, vous avez donc du pouvoir. Votre caméra est donc plus utile que votre siège de sénateur. Ça veut dire qu'on ne peut pas agir politiquement ?
Sont complémentaires. Mmh. J'ai commencé ces séries et tous les sujets que j'ai pris dans ces séries ont été les principales causes au drapeau qu'on a travaillé pendant ces décennies. Mmh.
Et qu'est-ce que vous dites aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous faites, vous, le sénateur ? Comment vous arrivez à le dénoncer sans la caméra, cette fois ? Est-ce qu'il y a une prise, quand même, à Buenos Aires, ou pas ?
Si, je parle beaucoup. Hein. Mm-hmm. Je suis très connu dans mon pays. Et mon opinion, j'ai opinion. Toute la semaine, quelques programmes de télévision ou de radio, nous avons. Et un parti du pays qui aujourd'hui c'est minoritaire, il est pour le changement. Hein? Il est pour le changement. Cette année, c'est une année très importante parce qu'en octobre, sont les élections générales du président de la République en bas, tout le monde. Hein?
Mm-hmm. Un président qui a été élu sur une vague optimiste et qui aujourd'hui en revient très très largement.
Mais manipulation médiatique, manipulation. Le gouvernement de Macri a été l'alliance entre le secteur financier, bancaire, les grandes compagnies multinationales et les groupes médiatiques, les médias. Mm-hmm. Alors, on a un pouvoir très important, tous ces cocktails.
Est-ce que votre film est vu, beaucoup vu, vos films, d'ailleurs, parce que celui-là est tout neuf, mais est vu, beaucoup commenté, au moins, chez vous en Argentine ou pas ? Ou est-ce que finalement, on se dit que c'est nous qui nous intéressons beaucoup plus à ce que vous faites, vous ?
Non.
D'une certaine façon ?
Mais écoute, tous mes films, tous ces documentaires se projettent tout le temps et les universités et les écoles. Mmh. Les enseignants prennent mes films comme matière, comme instrument de travail. Mmh. Et en plus, il y a une diffusion énorme. Non, sont des projections sociales. Les réseaux, c'est un réseau parallèle et social. Et les universités, et les syndicats, et les associations culturelles. Tout le temps, c'est fait à partir de DVDs. Pourquoi ? Parce que le documentaire n'a pas la place dans les circuits cinématographiques.
Comme partout, hélas.
Les circuits disent non, documentaire, non. Et documentaire politique, non. La télévision égale. La télévision égale. La télévision, il y a télévision officielle, il y a télévision privée. Les deux refusent. Projeter un film comme ça.
En tout cas, nous on l'a vu et on le verra à partir de la semaine prochaine. Ça s'appelle Le Grain de Livret, Fernando Solanas. Merci beaucoup de votre passage.
Merci Fabien.
Merci vraiment. Merci.
France Inter, Fabien Synthèse. Un jour dans le monde.
La suite d'Un jour dans le monde, ça se passe en Irak ce soir, qui a aussi des soucis avec les familles de djihadistes, femmes et enfants parqués dans des camps. On parle de familles irakiennes qui, elles aussi, expliquent qu'elles étaient victimes de mari, de frère ou de père. Sous les radars et Amélie Perry avec des hologrammes en Indonésie, avec des orages au Népal et des particules fines en Thaïlande. Le Monde selon Trump et Grégory Phillips. Bonsoir Grégory.
Bien.
Et Grégory, est-ce qu'on va fermer la frontière mexicaine ou pas alors ?
Ah, c'est une vraie question. En tout cas, Trump menace de le faire. Ça aurait évidemment des conséquences très importantes parce que c'est tout simplement la plus grande frontière au monde entre les États-Unis et le Mexique.
Voilà. Puis on verra aussi que Joe Biden n'est pas encore parti en campagne, mais il se peut que le démarrage soit un peu, comment dire, difficile. Allez, à tout à l'heure, Grégory, Le Monde à l'envers et Jean Marfour. Bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Avec un comédien en tête de l'élection en Ukraine avant le deuxième tour. Donc on parle de présidentiel. Et il pourrait faire un club au fond parce qu'il est pas tout seul,
c'est
en fait.
C'est ça, le bouffon du roi peut devenir le roi et ça ne se passe pas qu'en Ukraine, signe des temps.
Allez, à tout à l'heure, le tour de la planète continue. Il passe par les États-Unis avec les Black Keys, Lo-Hi. We'll be right back. Les Black Keys sur France Inter, Lohai. Ah, voilà, Amélie Perrier.
France Inter.
Good evening and welcome.
Gerasimashimo Kapion.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Et Amélie, sous les radars, commence ce soir avec une campagne haute technologie en Indonésie.
Le président Joko Widodo a décidé de se démultiplier sur le terrain grâce à des hologrammes, comme Jean-Luc Mélenchon le fait en ce moment pour les Européennes, partout en France. Et en Indonésie, on comprend d'autant plus l'intérêt. Le pays est un archipel de 13 500 îles, près de 2 millions de kilomètres carrés, près de 190 millions d'électeurs à convaincre pour la présidentielle. C'est dans un peu plus de deux semaines, le 17 avril. Ouais, alors le son n'est pas très bon, mais c'est celui de la télé nationale qui couvre cette campagne. Ici, lors d'un meeting, le président Widodo apparaît en image 3D. Le dispositif ultra moderne est surtout utilisé en fait dans les provinces les plus peuplées de l'île de Java. C'est un moyen de rappeler aux électeurs les progrès technologiques et économiques réalisés pendant son mandat. Et c'est surtout le canal idéal pour combattre les rumeurs et les infox, un fléau aujourd'hui sur les réseaux sociaux indonésiens. Les fausses informations les plus courantes sur Widodo, il serait en fait un chinois communiste et pas vraiment musulman. Des calomnies, des mensonges martèlent l'hologramme dans ce pays où vit la plus grande population musulmane au monde. Les versets du Coran sont utilisés à des fins politiques, regrette le président et son hologramme. D'ailleurs, le prédicateur islamiste conservateur Maruf Amin, qui est candidat à la vice-présidence aux côtés de Joko Widodo, s'est lui aussi converti aux hologrammes pour dénoncer ces manipulations de l'islam. Pour l'instant, les derniers sondages donnent une très large avance, une vingtaine de points au président sortant. Et puis, outre l'Indonésien et Jean-Luc Mélenchon en France, donc, les hologrammes ont aussi été adoptés dans les campagnes du Turc Erdogan et de l'Indien Modi. C'est la politique 2.0, donc.
Allez, le Népal lui subit les foudres de la nature.
C'est le cas de le dire, une tempête meurtrière s'est abattue sur le petit état himalayen. On dénombre pour l'instant une trentaine de morts et plus de 600 blessés. Bilan très provisoire, disent les autorités, tant la zone est difficilement accessible et le travail des secours rendu délicat par les conditions météo. Voilà ce que des expatriés filment et postent sur les réseaux sociaux. Des rideaux de pluie, des éclairs, la foudre. Conditions dantesques dans le district de Bara, au sud de la capitale, Katmandou. Les vents ont tout emporté, les maisons, les poteaux électriques. Des inondations ont ravagé des hôpitaux, d'où le bilan dramatique. Les tempêtes de cette ampleur sont plutôt rares en fait au printemps au Népal. C'est la saison sèche normalement et chaude. Le dérèglement climatique ne doit pas y être totalement étranger.
Et puis tiens, quand la pollution nous pousse à des comportements inédits.
En Thaïlande, l'état d'urgence a été décrété à Chiang Mai. Les niveaux de particules fines atteignent donc des niveaux inédits. 700 microgrammes par mètre cube dans certaines zones, ça vous dit peut-être pas grand-chose, 700 microgrammes. Mais l'OMS, elle conseille de ne pas dépasser 25. Donc vous voyez, le niveau de pollution dans cette ville de Chiang Mai, des niveaux désormais dangereux pour quiconque sort dans la rue. Samedi soir, la comédienne française Mélanie Thierry, de passage à Chiang Mai, postait une photo d'elle, un masque sur le visage. Voilà comment on sort un samedi soir à Chiang Mai, tweetait-elle. Et voilà ce que dit cet autre habitant dans sa voiture. Alors voilà, on fait face à un épisode majeur de pollution dans le nord de la Thaïlande. On n'a jamais vu ça avant. On nous dit que sortir et respirer cet air-là dehors est l'équivalent de fumer 3 à 4 paquets de cigarettes par jour. Et de décrire ensuite les yeux qui brûlent, la gorge qui gratte, la brume marronasse sur la ville. Aujourd'hui, les autorités impuissantes en arrivent à demander à la population de rester dans des zones sécurisées, c'est-à-dire des bâtiments fermés, climatisés. Toute activité en plein air exposerait n'importe qui à des lésions graves. Ce nuage toxique au-dessus de la ville thaïlandaise a même contraint des compagnies aériennes à annuler des vols, tant le nuage est dense. Et à l'origine de ce désastre, eh bien, les agriculteurs qui, autour de la ville, ont brûler leurs déchets pendant la saison sèche, les particules ne s'évacuent pas.
Amélie Perrier sous les radars. Merci beaucoup, Amélie. À demain.
À demain.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem,
Pékin. Le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo,
Beyrouth, France Inter.
Et c'est en Irak que nous emmène l'escale reportage d'un jour dans le monde ce soir. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé des familles de djihadistes étrangers, à rapatrier ou pas, maintenant que Daesh territoire est mort. Mais l'Irak aussi a ses familles, des milliers de familles mises au banc de la société et enfermées dans des camps. Bonsoir Noé Pignède.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
C'est dans la province de Kirkouk que vous nous emmenez. Les veuves et les orphelins que vous avez rencontrés disent, un discours qu'on a déjà entendu évidemment, avoir rejoint Daesh malgré elles, victimes du choix de leur père, de leur mari ou de leur frère.
Daesh, c'est des hommes barbus qui demandent aux femmes de couvrir leur visage avec une écharpe et de porter des chaussettes et des gants quand elles sortent. Mon père était l'un d'eux. Ils disent que nous faisons partie de l'État islamique. C'est injuste, moi je n'y suis pour rien. Maintenant ils sont morts, mais ils ne nous laissent pas tranquilles. Je veux partir d'ici, qu'on arrête de nous embêter. Mais je ne pense pas que ça arrivera.
La petite fille que vous venez d'entendre s'appelle Yasmine. Elle a 12 ans et vit dans un camp déplacé depuis un an. Nous sommes à Laylan, dans la province de Kirkouk. Ici, des familles s'entassent dans des tentes blanches, paysage banal du nord de l'Irak. Depuis la chute de l'État islamique en 2017, des centaines de familles accusées d'avoir soutenu l'organisation terroriste ne peuvent pas rentrer chez elles. Mariam, la mère de Yasmine, nous accueille dans sa tente où elle vit avec ses 7 enfants.
Mon mari était membre de Daesh, donc après la guerre, je ne pouvais plus rester dans mon village. J'ai été placée dans ce camp par les services de sécurité. Nous souffrons beaucoup de cette situation. Et nos conditions de vie sont très précaires et nous n'avons plus d'argent. Quand la guerre a commencé, mon mari était pourchassé par le gouvernement. Alors il est parti se battre avec notre fils et avec son frère. Les autorités les ont poursuivis jusqu'à leur mort. Mon fils de 12 ans a rejoint Daesh à cause de son père. Il l'admirait. Plusieurs fois, j'ai essayé de le raisonner, mais il ne voulait rien entendre. Il voyait que les djihadistes étaient puissants, qu'ils portaient des armes, donc il voulait en faire partie lui aussi. Il pensait qu'à leur mort, ils iraient directement au paradis, sans jugement. Mais personne ne va au paradis sans être jugé, ils seront punis. Dieu seul sait ce qui est juste, mais je sais que ce qu'ils font est mal. J'espère pouvoir revoir mon fils un jour, car je l'aime. Et je ne sais pas s'il ira en enfer ou au paradis.
Et vous, est-ce que vous souteniez l'idéologie de Daesh ?
Non, je ne les aimais vraiment pas. Plusieurs fois, nous nous sommes disputés à ce sujet avec mon mari. Je voulais le quitter et retourner chez mes parents, mais il ne m'a pas laissé partir avec les enfants. Alors je suis restée auprès de lui. Il est devenu violent, il m'insultait, me battait. Je n'avais plus le droit de sortir pour aller en ville. Pour être honnête, la mort de mon mari a été un soulagement. Je me suis dit, je vais enfin pouvoir élever mes enfants comme je l'entends. Cela m'a libérée d'un fardeau. Mais finalement, nous ne sommes toujours pas libres et les services de renseignement continuent de nous traquer. Nous ne sommes pas responsables de ce que mon mari a fait. Il faut nous rendre notre liberté et que le gouvernement arrête de s'acharner sur nous. Car si ça continue, mes enfants finiront par se rebeller et être incontrôlables. Mais à vrai dire, je pense que nous ne pourrons jamais rentrer chez nous. Lorsque tous les gens auront quitté ce camp, il ne restera que nous, les familles de Daesh, tout ensemble enfermés dans un même camp.
Paria de la société, renié par leur propre communauté, les veuves et les enfants de l'État islamique sont le symbole d'une guerre que l'Irak veut oublier. Coupable idéal d'un pays rongé par les fondamentalismes religieux, la corruption et la pauvreté, ces milliers de familles sont exclues du processus de réconciliation nationale. Elles sont réduites au silence et parquées dans des camps, des prisons à ciel ouvert, terreau de nouvelles idéologies radicales. Tom Perrecosta, porte-parole du Conseil norvégien pour les réfugiés en Irak.
Il y a une volonté de punition de la part de l'État, sous pression, je pense, d'une partie du peuple irakien. Le problème, c'est que ce sont des punitions collectives. On punit des familles entières, des femmes, des enfants, pour les crimes qui ont été commis par des maris qui, bien souvent, sont partis rejoindre les rangs de l'État islamique en laissant derrière eux des familles qui ne sont pas impliquées dans les crimes de leurs maris. Donc on se retrouve avec des familles entières dans des camps qui sont complètement rejetés par la communauté et qui n'ont aucune solution durable pour un futur dans ce pays.
Parce qu'elles sont rejetées par l'État, mais elles sont aussi rejetées par leur communauté. Il y a aussi une règle tribale qui fait qu'elles ne peuvent pas rentrer.
Exactement, toute famille qui est suspectée d'affiliation ou clairement affiliée, dans un premier temps sera rejetée et punie par l'État, mais aussi ne peut pas rentrer dans sa ville, dans son village, parce qu'en Irak, c'est la loi du talion, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rentrer chez soi sans faire face à une punition de sa communauté. Donc elle risque tout simplement d'avoir leurs enfants soit attaqués, soit tués, tout simplement. C'est un problème global dans le pays. Et c'est en ça que l'État irakien doit faire un effort de réconciliation, parce que sinon on va se retrouver avec des générations entières au banc de la société.
Quand je joue avec les autres enfants dans le camp, parfois ils me traitent de Daesh. Ils insultent mon père. Je leur réponds juste « Et alors ?» Puis je rentre dans ma tente voir ma mère. Je lui raconte, mais elle me dit de les ignorer. Et on regarde la télé. Mon père travaillait à la mairie, je l'aimais beaucoup. Après son travail, on se baladait dans les rues et au bazar. En fait, moi, Daesh, je connais le mot, mais je ne sais pas ce que ça veut dire.
Noé Pignette, pour le reportage, merci beaucoup et à très vite. Souchel Rahman sur France Inter, la chanson s'appelle Maya.
Thank you.
s'appelle Sushi Laraman et c'est sur France Inter.
France Inter.
I will work so hard.
Fabienne Synthèse.
I promise you, it's going to change.
Un jour dans le monde.
Le monde selon Trump, saison 3 et Grégory Phillips avec son voyage hebdomadaire en Trumpland. Grégory, une question pour commencer. Est-ce que votre président va fermer la frontière entre les États-Unis et le Mexique?
Alors en tout cas, il menace de le faire et ce n'est pas la première fois. On se souvient des mêmes menaces proférées déjà à l'automne au moment des élections de mi-mandat. Pourquoi ? Eh bien parce que Trump accuse le Mexique voisin de ne rien faire pour lutter contre l'immigration illégale. Alors attention Fabienne, on parle quand même d'une frontière de 3200 kilomètres, la frontière la plus utilisée au monde avec chaque année environ 200 millions de personnes qui la traversent. Fermer complètement les postes frontières, même provisoirement, ça aurait d'énormes conséquences qu'on imagine bien humaines, économiques et matériel, mais le chief of staff de la Maison Blanche, le chef de cabinet, Mick Mulvaney, a confirmé que l'option était sur la table, c'était hier sur ABC.
Pourquoi parle-t-on de fermer la frontière? Parce que nos fonctionnaires qui sont aux postes frontières, eh bien on a besoin qu'ils aillent patrouiller dans le désert, là où il n'y a pas de mur. Je déteste dire cela, mais on vous l'avait bien dit. On a besoin de sécuriser la frontière et on fera tout ce qu'on peut avec les moyens dont on dispose. Les démocrates ne vont pas nous donner de budget supplémentaire. Et surtout, ils ne changeront pas la loi, qui fait que notre pays est devenu comme un aimant qui attire tous les gens d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale.
Et voilà donc une manière de relancer le bras de fer avec les démocrates sur le fameux projet de mur. Trump va-t-il mettre sa menace à exécution? Ben on le saura dans les prochaines heures ou dans les prochains jours. Le président américain doit se rendre, en tout cas ce vendredi en fin de semaine, dans la ville frontière de Calexico.
Allez Grégory, la prochaine élection présidentielle aux États-Unis c'est dans un peu plus d'un an et demi. Combien de jours d'ailleurs? D'habitude vous me donnez les jours.
500 et quelques on va dire.
Bah, et quelques, ben bravo tiens. Mais les candidats Grégory à l'investiture démocrate, eux sont déjà évidemment en campagne, on en a déjà largement parlé, on y reviendra, sauf un qui tarde à se déclarer, c'est Joe Biden, l'ancien vice-président, pas encore en campagne, sauf que déjà peut-être quelques casseroles, embarrassées en tout cas par une histoire de type MeToo.
Oui, alors ça se complique hein, pour l'ancien vice-président d'Obama qui pour l'instant fait figure de favori encore parmi les démocrates mais qui tarde à se déclarer. Il devrait le faire sans doute à la fin de ce mois, nous dit son entourage. Mais Joe Biden, c'est vrai, doit faire face aux accusations d'une jeune femme de 39 ans. Elle s'appelle Lucy Flores, élue démocrate du Nevada. Et elle raconte, notamment sur la radio publique NPR, c'est l'extrait que vous allez entendre, ce qui s'est passé en 2014 lors d'un meeting de campagne.
I just all of a sudden feel his hands and I feel him get up.
Soudainement, j'ai senti ses mains et qu'il était vraiment très proche de moi. À ce moment-là, j'ai pensé, OK, c'est vraiment bizarre.
But then he leans in and then he like inhales.
Il s'est encore rapproché, j'entendais sa respiration et il m'embrassait longuement sur le crâne. Et moi, je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que le vice-président des États-Unis est en train de m'embrasser?
Voilà, Joe Biden, pas encore candidat, mais donc obligé de se défendre et qui, hier, a dit que jamais de sa vie, il pensait n'avoir eu de gestes inappropriés.
Allez, on termine avec le désormais célèbre rapport Mueller, l'enquête russe, pas d'obstruction, c'est ce qu'a dit le procureur. Ce rapport, on devrait l'avoir entre les mains en entier, si je puis dire, d'ici quelques jours, c'est ça?
Oui, d'ici une quinzaine de jours à peu près, finalement, le rapport confidentiel de presque 400 pages sera rendu public. Les démocrates ont obtenu gain de cause. Et en attendant, eh bien, les émissions satiriques s'amusent. Tenez, un extrait du Saturday Night Live de samedi, avec formidable dans le rôle du procureur Mueller, excusez du peu, mais Robert De Niro. La comédienne Heidi Bryant joue le ministre de la Justice William Barr et Alec Baldwin, comme d'habitude, joue Trump.
I am submitting these 380 pages.
I am writing almost 4 pages.
I am reading 0 pages.
Voilà. Traduction, le procureur, j'ai rédigé un rapport de 380 pages. Le ministre, moi, j'ai fait un résumé de 4 pages. Et Trump dit, je n'ai lu aucune page, mais Sean Hannity de Fox News l'a lu pour moi. Sketch assez rigolo, on va dire. Et puis, De Niro est vraiment incroyable dans ce rôle du procureur Mueller, exactement. Et puis, Fabienne, juste un point. On s'amuse aussi dans les librairies de Washington, chez Buzz Boys and Poets, par exemple, que vous connaissez bien, parce qu'on avait fait une émission là-bas au moment des élections de demi-mandat. Il y a cet écriteau qui dit « Vous ne savez pas quoi lire en attendant le rapport Mueller ?» Eh bien, voici quelques idées. Et la librairie, qui est quand même assez farouchement démocrate, a mis en place un rayon consacré à la présidence de Trump et à la procédure d'impeachment de destitution aux États-Unis.
Voilà, j'imagine quand ils ont appelé De Niro pour lui demander si ça lui ferait plaisir d'être dans SNL, j'imagine qu'il y était, mais en courant. Et sinon, pour votre info, Grégory Phillips, 581 jours, 12 heures et 5 minutes, 4 secondes, 3 secondes. Non, ça change tout le temps, c'est terrible. Allez, à la semaine prochaine.
Le 18-20. Fabienne Synthèse. Sur France Inter.
Le monde à l'envers et Jean-Marc Four. Jean-Marc, je voudrais votre portable avec le décompte
avec le
dans un instant. Dans le monde à l'envers, les Ukrainiens ont donc voté hier au premier tour de la présidentielle. Ils ont porté en tête un humoriste qui n'a jamais fait de politique. On en a parlé ici même. Ça peut sembler anecdotique et marginal, mais pour vous, au contraire, c'est très révélateur. Les clowns, les bouffons sont de plus en plus présents dans l'espace politique et c'est ça votre monde à l'envers.
Un clown président. D'abord, on se dit que c'est un poisson d'avril. Volodymyr Zelensky a donc obtenu 30,3% des voix au premier tour. Il domine outrageusement le deuxième, le président sortant Petro Poroshenko, seulement 16%. En attendant le second tour dans trois semaines, ce premier succès de Zelensky est indiscutable. Il arrive en tête dans 20 des 25 régions électorales d'Ukraine. Et il faut bien le dire, ça ressemble à un gag où la fiction devient réalité. Je m'explique, Zelensky n'est pas un homme politique. Il ne revendique d'ailleurs aucune compétence pour diriger les affaires de l'État. C'est un comédien, humoriste, spécialiste de la satire et il est devenu célèbre en faisant quoi ? En incarnant, dans une série télévisée, Sluga Naroda, un simple enseignant qui devient président de la République. Il y a un an, pour lancer la troisième saison de sa série, qui veut dire serviteur du peuple, Zelensky a décidé d'être candidat pour de vrai, et la réalité a rattrapé la fiction. Zelensky n'a fait aucun meeting, uniquement des spectacles de stand-up avec sa Ligue du Rire. Il a fait campagne essentiellement sur Facebook, en sortant des blagues. Son programme est flou, entre libéralisme économique et race gratis. Il n'a pas la moindre idée sur la région du Donbass, qui est en partie contrôlée par les pro-russes. Mais le bouffon, au sens premier du terme, le bouffon du roi, a séduit les Ukrainiens parce qu'il dénonce sans relâche la corruption et l'arrogance des élites.
Donc c'est pas un cas isolé, vous dites?
Non, c'est pas une fantaisie ukrainienne, si vous voulez. C'est un phénomène qui se reproduit dans plusieurs pays. Dans la famille bouffon, on pense d'abord évidemment à Beppe Grillo, le satiriste italien qui a créé et dirigé jusqu'en 2017 le mouvement 5 étoiles en Italie, désormais au pouvoir. Là encore, un clown revendiqué comme tel, qui dénonçait la corruption des dirigeants politiques en faisant campagne pour un Parlamento Pulito, un parlement propre, avec ses journées Vafanculo. Là, je vous laisse traduire. En Slovénie, au sud de l'Autriche, je vous présente Marianne Sarec, ex-humoriste qui imitait les hommes politiques à la télé. Et depuis l'été dernier, il est Premier ministre. Il dirige un gouvernement de coalition de 5 partis. En Islande, je vous présente Jón Gnarr, devenu maire de la capitale Reykjavik en 2010, avec son mouvement baptisé Le Meilleur Parti. Ancien comique, lui aussi, qui dénonçait dans ses sketchs le manque de transparence politique. De l'autre côté de l'Atlantique, on pourrait citer Jimmy Morales au Guatemala, là encore un comique devenu président de la République il y a 3 ans. Et puis il y a quand même le cas Donald Trump, pas totalement un comique, je vous le conseille, mais là aussi une notoriété acquise en grande partie grâce à un show télévisé, The Apprentice.
Donc est-ce qu'il y a des enseignements à déduire de cette vague de clowns politiciens?
Oui, parce qu'il y a de vrais points communs entre toutes ces histoires. D'abord, ces humoristes ou ces stars de la télévision fondent leur ascension sur la dénonciation de la corruption et sur le rejet des élites. En Ukraine, Zelensky, c'est vraiment l'homme qui se présente comme l'homme du peuple. Ensuite, ils s'opposent tous en promoteurs de la démocratie directe. Le référendum à tout va, la suppression des corps intermédiaires, le client est roi. Troisième point commun, c'est l'apogée de la société du spectacle. C'est ce qu'on disait, c'est-à-dire je suis d'abord un dirigeant politique virtuel dans une satire télévisée et je deviens ensuite un dirigeant politique réel. La frontière s'estompe entre l'hologramme, on parlait des hologrammes tout à l'heure, et la vraie vie. Enfin, dernier point commun, le programme de ces non-professionnels de la politique est souvent flou, difficile à classer, ni droite, ni gauche. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Je vous laisse juger. Par définition, ça apporte un vent de fraîcheur, mais il y a un risque réel d'incompétence et avec cela son corollaire, c'est-à-dire le risque de la manipulation par des puissances extérieures. En tout cas, après la République des profs, souvenez-vous, la République des juristes, des économistes, voici donc peut-être le temps des bouffons et ce n'est pas un poisson d'avril.
Jean-Marc Four et Le Monde à l'envers. À demain, on reste ensemble, nous, pour le téléphone sonne et puis juste avant, évidemment, le journal de 19h. Bonne soirée, ne bougez pas.